des livres et des lires, Marie Bronzini.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur RCFM et dans votre émission consacrée à la littérature, émission hebdomadaire. Oui, j'aimerais vous retrouver chaque jour. Bénédicte Giusti, bonjour.
Bonjour Marie.
Paul Parsi, bonjour.
Bonjour Marie.
Et Christophe Laurent, bonjour.
Bonjour.
Voilà pour l'équipe d'aujourd'hui. Nous allons parler du tout nouveau livre de Natacha Apana, Le ciel par-dessus le toit, publié chez Gallimard. Tout petit livre qui est toujours dans la liste du Goncourt, mais qui, me semble-t-il, Bénédicte,
oui,
a commencé à être
liste,
écarté
je sais plus si c'est le
d'autres
féminin
listes.
Ou le Renaudot, je ne sais plus, mais voilà.
Bon, on avait lu Tropique de la violence. J'ai souvenir que j'étais un petit peu seule à l'époque à avoir beaucoup aimé cet ouvrage. Je me souviens plus si Paul l'avait lu, il me semble pas.
Je l'ai lu, mais...
Mais pas dans notre groupe, hein,
voilà.
Vous l'aviez lu en indépendante. Et Bénédicte, vous n'aviez pas trop apprécié,
non,
dans mes souvenirs. Et moi, ce que j'avais aimé dans ce livre, c'est que le territoire de Natacha Apana était très marqué et très fort. Et il disparaît un peu ici, dans ce... Il disparaît complètement. Alors, c'est Christophe qui va commencer. Parce que Christophe l'a beaucoup aimé. Ouais. Me semble-t-il.
Beaucoup aimé, non. Effectivement, moi j'ai préféré au précédent.
Ouais.
Parce qu'en fait, si je me souviens bien, le précédent, j'avais bloqué mais psychologiquement sur cette nage avec le sélacanthe. Je ne sais pas si vous vous souvenez.
Très bien,
voilà.
Très bien.
Et moi, j'avais vu un documentaire juste avant sur le sélacanthe, j'ai dit non, c'est pas possible. Et du coup, ça m'avait fait un peu reculer sur tout le livre. Et là, curieusement, alors, ce que j'ai aimé, c'est la relation, ouais, vous allez me dire, c'est bateau, c'est la relation parent-enfant. Voilà, ça, j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé qu'il y avait, quelque chose qui était très, très intéressant.
Non, mais
très...
pourquoi ces bateaux, si vous pensez qu'elle est juste et qu'elle résonne en
ouais,
vous
parce que c'est, ouais, pas d'une originalité infinie, quand même. Mais moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est l'écriture. Alors, je suis peut-être un peu le seul autour de la table.
Il y a toujours ça dans ce livre, hein, dans ces livres. Il y a toujours une relation avec un enfant et un parent, qu'il soit adoptif ou
c'est
pas.
Vrai, c'est vrai, je m'en souviens.
Voilà,
oui,
c'est toujours présent. On rappelle quand même qu'elle est journaliste et qu'elle est mauricienne, et que normalement, moi, ce que j'aimais beaucoup chez elle, voilà, c'est qu'elle nous parle de l'île Maurice et des traditions, des us et coutumes, et de l'actualité à l'île Maurice, qui est une actualité pas si rose.
Oui, oui, mais...
Entre les hôtels de luxe et la misère qui flirte, voilà,
là,
à côté.
Si on doit raconter un petit peu succinctement l'histoire, mais en fait, c'est difficile de raconter succinctement une histoire qui tient sur 125 pages, donc on a peur de tout raconter. Donc, c'est une jeune fille qui a été élevée par des parents dans une usine, elle était jolie, les parents en ont fait une poupée. Elle doit chanter comment ça s'appelle,
les fêtes de fin d'année
pour l'usine. Un soir, il y a un soir de cette fameuse soirée, elle est embrassée par un adulte.
Ouais.
Elle déchire toute sa robe, elle déchire en fait la poupée qu'elle était pour devenir quelqu'un d'autre. Elle se fait baptiser Phénix et on va suivre son aventure familiale avec ses deux enfants.
Et voilà, pour cette résurrection, elle se tatoue également le corps. Voilà.
Ouais, en fait, l'idée, si j'ai bien compris, c'est La femme objet brise un petit peu l'image qu'elle renvoie pour devenir quelqu'un d'autre. Mais ce quelqu'un d'autre, est-ce qu'il peut aimer pareillement ou mieux que ce que ses parents lui ont apporté ? Voilà, je trouvais que c'était l'idée. Moi, l'idée m'a intéressé. Après, il manque quelque chose. Je ne saurais pas dire quoi, mais il me manque quelque chose. L'écriture, il y a des passages qui sont très très bons, notamment quand le père attend à la gare. Je ne sais pas si vous vous souvenez, quand le père attend à la gare.
Absolument. Alors, ce qu'il y a d'intéressant chez Natacha Apana, c'est que cette écriture qui vous avait déjà gênée il y a quelque temps avec Tropique de la violence, et que moi j'avais beaucoup aimée, j'avais trouvé très poétique et très juste, elle m'avait complètement embarquée. Et là, on a l'impression qu'elle évolue, Natacha Apana, parce qu'elle elle est dans l'économie de mots. Alors, pas seulement parce que le texte est court, mais on sent bien que ces phrases sont de plus en plus courtes, de plus en plus elliptiques, de plus en plus... Vous trouvez pas ?
Ah non. Bon, moi, j'ai trouvé ça très mauvais. Hein. Et puis, je me suis profondément ennuyée. Alors, sur 120 pages, ça pose un vrai problème. Donc, c'est l'histoire, c'est vrai, d'une femme en colère, d'une jeune fille en colère qui va fuir donc la maison familiale, qui va tenter de se construire comme elle le peut. Mais cette colère qu'elle a en elle va l'empêcher notamment de manifester son amour pour ses deux enfants. Alors, moi, j'avoue que pour moi, c'est un vrai mystère critique et éditorial. C'est-à-dire que la presse est unanimement dithyrambique dithyrambique. Alors que moi, sincèrement, alors je peux comprendre qu'on apprécie certains passages, etc. Mais sur 120 pages, je le trouve moi fort mal écrit. J'ai eu l'impression d'en lire 300. Si je n'avais pas eu l'émission, je pense que je serais pas allé au bout des 60 premières pages. Donc j'avais quand même pas eu toute cette impression-là pour Tropique de la violence, même si ça m'avait pas du tout enthousiasmé. Ouais. Mais voilà, le problème de Natacha Apana, et c'était un problème qu'il y avait déjà dans son précédent roman.
Expliquons aussi aux auditeurs que vous avez dû le lire très très vite.
Ah ouais, mais de toute façon...
Dans les conditions... Non, mais
non.
C'est...
Non, ouais. Non, je l'ai. Non, non. Paul l'a lu très rapidement. Ouais. J'ai eu largement le temps. Donc,
excuse.
Non, il y a pas des. Le problème de Natacha Apana, c'est qu'elle ne choisit pas son camp. Là aussi, elle veut nous présenter ça comme une forme de conte. Alors, il était une fois. Mes personnages vont avoir des noms hautement symboliques. Loup. Mais finalement, voilà, loup, L-O-U-P, ouais. Phénix pour dire la Renaissance. Mais elle n'en fait rien. Les quêtes et les obstacles, bon, il y en a pas franchement. Et comme c'est pas abouti, tombe à plat et tout sonne faux. Et là où la caricature peut faire sens dans le conte, ici, dans le pire des cas, dans le meilleur des cas, c'est ennuyeux. Dans le pire des cas, il y a des scènes qui sont franchement ridicules. L'accouchement de Phénix devant un médecin tétanisé par la beauté de cette femme qui accouche quasiment seule. Moi, j'ai trouvé ça risible.
Moi, j'ai trouvé ça hors de propos.
C'est risible. Et voilà. Et au cas où on n'aurait pas compris que c'est une femme en colère, donc vous l'avez dit, Marie, elle a cette espèce de dragon. Enfin, elle a un dragon tatoué comme ça sur tout le corps. Et après, il y a alors les phrases, vous dites une économie de moyens, c'est pas vrai. De temps en temps, elle dit je vais vous faire des grandes phrases lyriques, très complexes. Parfois même, je ne vais pas mettre de ponctuation parce que je veux dire le
flow. Non, mais c'est rare, c'est souvent etc. des phrases avec des suites de mots, d'adjectifs,
ben
ou
ça,
de
c'est
verbes.
Quand voilà, elle dit ouais. Ah bah attention, là ouais. Attention, je bascule du côté du conte, donc ouais. Je vais en avoir cette ouais. Voix comme ça, un peu naïve, mais c'est une écriture qui est juste lourde, scolaire, grandiloquente, parfois complètement fade. Voilà. Et en plus, le problème, c'est qu'elle met son roman un petit peu sous la tutelle de la poésie. Hein.
Complètement. Complètement cruel,
Le roman, donc le titre du roman, c'est un vers de Verlaine. En préambule, il y a un poème très mauvais. Et ensuite, si vous voulez, de temps en temps, il y a des petits clins d'œil comme ça à plein d'auteurs. Hein. Elle reprend des phrases de Rimbaud, etc., qu'elle modifie un tout petit peu, mais on retrouve...
Le poème, c'est pas qu'il soit très mauvais, c'est qu'il est faussement naïf, puisqu'il est écrit, enfin, je sais pas si on peut tout dire, mais.
Oui, voilà, on peut le dire, enfin, j'en sais rien. Mais oui, mais là, il faut être bon si on veut faire de la fausse naïveté, parce que c'est censé être la voix d'un enfant, etc. Ouais. Et là, alors moi, zéro émotion, aucun frémissement. Non, je le répète, si j'avais pas eu l'émission,
moi,
j'aurais pas lu.
Je ne répéterai pas, par respect pour l'auteur, ce que j'ai dit à Christophe quand j'ai fini de lire le livre. Donc j'essaye de trouver les aspects positifs de cet ouvrage. Il me semble que la description du personnage de Lou, de l'enfant, donc on sent qu'il y a un problème.
Oui.
Bon, je trouve que ça c'est pas mal parce que c'est pas dit franchement dans les premières pages. On sent qu'il y a un léger souci.
Ouais.
Je trouve que voilà, allez, on s'attache quand même à Lou et on est quand même intrigué par ce personnage. Non, même pas vous.
Non, okay. Un peu, qui au bout, c'est peut-être le moins inintéressant, mais au bout du compte, il apparaît très peu, parce qu'aussi, il y a des erreurs. Dans les critiques, on vous dit, oui, c'est un livre sur la prison, etc. Non,
il y a deux
En plus, bon, faudra qu'on m'explique comment un jeune homme de 17 ans peut se retrouver en prison avec des adultes pendant 8 jours. Bon, allez, on est dans le compte, on cherche pas de ressemblance, mais quand même, à un moment donné, voilà, là aussi, il faut que ce soit un peu.
Comment un enfant peut être incarcéré, un mineur peut être incarcéré, alors qu'il n'a commis juste qu'un accident grave avec une voiture? Ça me paraît.
Et dans une prison pour adultes.
Je pense qu'il y a un problème là sur la connaissance du droit pénal.
Ouais, mais parce que est-ce qu'on sait
si on est dans le code dans
cette... Non, mais est-ce qu'on sait si dans cette maison d'arrêt, il n'y a pas, un coin pour les mineurs?
Non, ils disent au milieu des adultes. Il le dit à un moment donné.
Mais parce que lui, peut-être se sent. Comme c'est un conte, il se sent peut-être enfant.
Et puis vu le personnage, bon.
Bon, je sais pas. Ça m'a moins dérangé. Paul.
Alors, je crois que vous avez tout dit. Presque. Je vais donc ajouter que pour moi, j'étais très en colère quand j'ai fini le livre. C'est un livre pute. C'est un livre qui a été écrit pour plaire. C'est de la tambouille. Bon. Alors, ce qui m'étonne, moi, c'est cette unanimité des critiques. On dirait qu'ils s'emparent, à certains moments donnés, nous sommes dans la période des prix.
Ouais. Hein.
Ils s'emparent d'un livre et ils décident seul ou bien en accord avec les maisons d'édition, ça je ne suis pas capable de vous dire comment ça se passe réellement, ils décident d'en faire un événement. Ce n'est pas un événement, c'est vraiment pour moi une arnaque ce livre. Elle a pris, vous savez c'est comme dans, chez certains restaurants. Quand on va au restaurant, on vous dit, oh là là, c'est... Eh ben oui, hein, ils ont mis un peu plus de sel, de poivre.
Et qu'on vous propose des bowls. Des bowls saumon, des bowls avocat, des bowls poulet, des bowls poulet.
Ce qui est pour moi scandaleux, c'est que dans cette rentrée, ben, il y a quand même d'abord énormément de livres qui paraissent, et parmi lesquels, il y en a quelques-uns sur lesquels on peut s'attarder. Mais celui-là, encore une fois, c'est une arnaque. Alors je déconseille férocement, si l'on va dans une librairie sans savoir ce qu'on va acheter, d'acheter celui-là, je me le permets. Hein,
bien sûr, je vous en prie.
Et à l'occasion, vous demandez au libraire ou à la libraire.
Lisez Tropique de la violence de Natacha Appanah, qui est plus intéressant.
Quand vous dites c'est unanime, moi, je ne lis pas toutes les critiques, mais c'est quoi? C'est une cascade de...
Absolument.
Ah oui, c'est un raz-de-marée.
Vous ouvrez, vous ouvrez les hebdomadaires de cette semaine. Et vous avez là des... On vous donne ce que pensent les critiques du moment, les grands critiques du moment, comme ça en cascade.
Je suis très étonné. Hein,
ah, c'est formidable, c'est un grand livre. C'est...
Ah, je trouve ça scandaleux parce qu'en
faisant ça, on façonne l'esprit des lecteurs, le lecteur lambda, celui qui va à la librairie pour se faire plaisir, il se dit je vais acheter un livre. Ben, s'il a d'abord ouvert ses deux ou trois hebdos de la semaine et qu'il voit ça, c'est ce livre-là qu'il va acheter, il va pas chercher.
Bon, Natacha Appanah, il faut quand même aussi dire qu'elle a écrit plus d'une dizaine de bouquins, elle a traduit pas mal de livres aussi de l'anglais, c'est une journaliste qui est respectée, elle avait reçu le prix Femina pour Tropique de la violence, donc elle est déjà dans le sérail. C'est peut-être aussi l'explication. On juge souvent une œuvre et pas un récit. C'est peut-être pour ça que voilà, les critiques se sont emballées. C'est vrai que voilà, nous, on est un petit peu restés à côté. Il n'y a que Christophe, je crois, qui... Voilà.
Oui, curieusement, hein.
Non, ouais, curieusement, non.
Non, non.
Non, parce que vous avez été... Non, moi, je ne suis pas trop surprise, mais... Mais non, il est sensible, lui, quand il y a une histoire d'enfant et voilà,
de relation parent-enfant.
C'est la relation parent-enfant.
Voilà, c'est ça qui le touche.
Qui m'intéresse l'enfant rebelle. Comment font-ils pour élever leurs enfants?
Eh bien, ils font ce qu'ils peuvent. C'est des héros, les parents. Bon. Et là, encore une fois, je vous dis, c'est une arnaque, cette histoire entre cette jeune femme qui a échappé à un destin qu'on lui forçait d'endosser. Ouais. Hein. Bon. Et puis, qui... se bâtit contre ce destin, d'accord, mais en esquintant les deux enfants qu'elle a fait.
Ce qu'il y a, c'est que c'est très peu crédible, et c'est tellement court aussi sur les relations de la mère avec ses deux enfants, c'est tellement court.
Je crois qu'il faut qu'on s'arrête parce qu'on va être terrible. Parce que moi, j'ai même envie de dire, mais quel est le sujet de ce livre?
Il n'y en a pas, rien n'est dit. Je vous lis quand même,
chers auditeurs, évidemment, vous êtes plus intelligent que nous, vous ferez votre opinion, ne nous suivez pas à la lettre, vous l'avez déjà prouvé d'ailleurs, donc pas de problème. Je vous lis la première page. Il était une fois un pays qui avait construit des prisons, parce que la première page, elle est quand même, je vous assure...
Gratuit.
Non mais, vous vous dites, ah mince, mauvaise pioche, allez.
Ah, exactement.
Comment on va faire pour faire une émission autour de ça? Heureusement, on va vous parler d'autres livres, hein. Ne changez pas de chaîne.
Restez avec nous.
Restez avec nous. Il était une fois un pays qui avait construit des prisons pour enfants parce qu'il n'avait pas trouvé mieux que l'empêchement, l'éloignement, la privation, la restriction. L'enfermement est un tas de choses qui n'existent qu'entre des murs pour essayer de faire de ces enfants-là des adultes honnêtes, c'est-à-dire des gens qui filent droit. Ce pays avait heureusement fermé ces prisons-là, abattu les murs, promis juré qu'il ne construirait plus ces lieux barbares où les enfants ne pouvaient ni rire ni sangloter. Parce que ce pays croit en la réconciliation du passé et du présent. Il a gardé un portail d'entrée pour que se souviennent ceux qui s'intéressent à ces traces-là, qui croient aux fantômes et aux histoires qui ne meurent jamais. Pour les autres, c'est l'entrée d'un beau square en pleine capitale et ils viennent s'y promener, s'y reposer, admirer le ciel ouvert, si bleu, si calme. Ils viennent en famille avec leurs propres enfants et c'est aussi ça, ce pays, un jardin sur des anciennes larmes, des fleurs sur des morts, des rires sur des vieux chagrins.
Christophe, vous avez eu un moment d'absence, c'est pas possible. Parce que
Non, mais arrêtez.
Bon, d'accord.
Arrêtez. Vous avez déjà écrit un livre, vous? Allez, soyez
responsable. Ah, non, mais justement, parce que je connais mes limites, moi. Je suis extrêmement lucide, j'ai trop de respect pour la littérature.
Elle aime les arbres.
Natacha Apana, Le ciel par-dessus le toit, chez Gallimard. Le seul à vous le conseiller aujourd'hui, c'est Christophe Laurent. Vous le conseillez toujours ou on vous a influencé?
Ah non, non, moi je le conseille. Après, ne vous jetez pas dessus. La semaine prochaine, je vous parlerai de quelque chose un peu plus.
Ouais. D'accord. Dans les.
Un peu plus musclé.
Juste pour vous dire qu'il se vend très très bien. Voilà, je le dis.
Mais est-ce que je peux me permettre,
je vous en prie,
si on veut lire un bon conte, n'hésitez pas à acheter la plus précieuse des marchandises de Grunberg que nous avons présentée ici et qui est une petite merveille d'équilibre, de beauté.
Bon, Grunberg, il n'a pas besoin de nous, c'est vrai. Mais avec ce conte, il a fait très très fort. Et quand on en avait parlé, c'était sous le conseil de Paul, on n'en parlait pas encore. Et aujourd'hui, alors, on en parle beaucoup. La plus précieuse des entreprises.
Des marchandises.
Des marchandises, voilà. Ça, c'est un très très bon conte, très bon livre. Écoutez, est-ce que vous nous proposez autre chose? Moi, je vous propose un livre, un petit livre. De journaliste également, pas de Natacha Apana, mais de Jérôme Camille. C'est un texte très court. Vous savez que depuis quelques années, la ville de Bastia a entrepris un travail, notamment sur les quartiers sud de la ville, puisque vous vous souvenez de la grande barre qui avait été détruite dans le quartier de Loupine. Et Jérôme Camille était allé interviewer les habitants et avait recueilli comme ça des témoignages et avait écrit un texte. Il y est retourné avec une autre photographe, puisque il y a 10 ans, c'était joli. Photographe aujourd'hui, c'est Rouillet, Valérie Rouillet. Donc il y a des portraits à l'intérieur de ce livre qui a été publié par le Centre Méditerranéen de la Photographie. Les photos sont absolument sublimes, d'une grande force. Bravo à Valérie Rouillet parce qu'elle a fait un travail remarquable à l'argentique, en noir et blanc. Il n'y a pas de nostalgie, il n'y a pas de misérabilisme. Les gens sont hyper fiers. Elle leur a demandé d'avoir des postures comme ça. C'est formidable. Et surtout, un grand coup de chapeau à Jérôme Camille qui, encore une fois, mais vraiment, en quelques pages, nous pond un texte, mais d'une tendresse, d'une drôlerie remarquable. Et autre point intéressant, il a été traduit en langue corse par l'immense Jean-Marie Harrigue. Et comme le dirait Jérôme Camille, je le cite, le texte est même plus beau en corse que le mien. Donc vraiment, procurez-vous ce petit livre, ça s'appelle Les Tre Città, les trois cités, Jérôme Camille, Valérie Rouillet, moi j'ai adoré. Autre chose?
Oui, j'ai lu la nouvelle Bénédicte. De Nicolas Mathieu, Rose Royale, pour nous faire patienter peut-être jusqu'à son prochain roman. Donc il a publié chez Polaroid dans les éditions In Octavo, donc cette longue nouvelle, donc je le dis, qui s'appelle Rose Royale, et que j'ai trouvé, alors là, pour le coup, admirable. Donc, c'est l'histoire de Rose. Elle a la cinquantaine. Elle a un petit boulot pas franchement exaltant. Ce qui concerne les hommes, elle s'est toujours trompée. Mais justement, elle a la ferme intention de ne plus se laisser avoir, de ne plus être une victime. Et puis en plus, bon, comme nous dit Nicolas Mathieu, c'est vrai qu'elle est abîmée, mais elle est encore sexy, elle a des jambes superbes, et surtout, elle sait peut-être pas ce qu'elle veut, mais elle sait ce qu'elle ne veut plus accepter. Et pour s'aider peut-être à ne plus laisser faire, elle a un petit calibre 38 qu'elle promène avec elle. Donc peut-être que la messe n'est pas encore dite. Et effectivement, quand elle rencontre Luc, elle s'autorise à penser que la chance a peut-être tourné, qu'elle a le droit à sa part de bonheur. Alors, le talent de Nicolas Mathieu, que l'on avait repéré et on avait tous aimé leurs enfants après eux, eh bien, il se retrouve ici. Et déjà,
précédent, les amis, que Christophe Laurent m'avait prêté.
Aux Animaux la guerre.
Aux Animaux la guerre, qui est génial également. Et qui a été adapté à la télévision.
Si vous voulez, voilà, on retrouve ce talent, cette capacité à peindre les petites gens. Tous ces individus, aux vies minuscules, pour reprendre l'expression de Pierre Michon, les perdus, les abîmés, les lassés, qui il vous dit comme ça toutes les lâchetés, les reniements que l'on fait tous. Il vous montre comment on laisse certaines choses insidieusement vous ronger. Et on avait déjà, enfin moi ça m'avait marqué dans son précédent roman, son talent pour les portraits de femmes. Voilà, et un homme qui sait aussi bien analyser notamment le regard qu'une femme peut porter sur elle. Moi je trouve que la justesse de Nicolas Mathieu est absolument prodigieuse. prodigieuse. Donc il y a de la lucidité, il y a beaucoup de cruauté aussi, hein, parce que notamment sur ce qu'il nous dit du couple, de l'amour, qui à un moment donné peut devenir une forme de prison.
Il n'est même pas très tendre avec Rose, parfois.
Ah non, c'est ce que je dis, c'est très cruel, c'est pour ça. Mais parce qu'une femme aussi, et c'est le cas de Rose, elle est capable de voir ce qu'elle est en train de devenir, etc.
Je vous invite, tout en nous écoutant, à consulter le blog de Killer Inside Me.
Oui, où il y a un excellent article
de Christophe Laurent sur cette nouvelle.
Et c'est vrai qu'il a un sens de l'observation qu'un style, mais incroyablement précis, vient servir. Moi, c'est vraiment ce que j'aime chez Nicolas Mathieu, c'est qu'il se paie le luxe, comme ça, d'une espèce de nonchalance. On ne sent pas le travail, on ne sent pas l'effort, alors que chaque phrase atteint sa cible. Et tout, vous voyez, tout est à sa place, c'est-à-dire qu'il est capable de tout nous dire d'une personne, même parfois d'une existence, en analysant simplement un regard, un geste. Et tout ce naturalisme, hein, parce qu'il y a cette forme de naturalisme chez Nicolas Mathieu, cette observation qu'on pourrait parfois trouver presque clinique, n'est jamais froide, parce que ça ne nous empêche pas d'avoir une immense empathie pour ces personnages. Et si vous voulez, voilà, pour moi, c'est l'anti-Houellebecq, et c'est pour ça que c'est bon. Vous voyez ? Voilà, parce qu'il n'y a pas...
Allez, ça y est, maintenant, allez, Houellebecq. Je peux me permettre,
Bénédicte, c'est aussi extrêmement politique.
Et mais voilà, mais là aussi, si vous voulez, c'est très politique. C'est
vrai que sans être lourd.
Voilà, c'est quand même...
Un petit extrait.
C'est quelque chose sur la violence.
Non, mais sinon, elle est complètement folle amoureuse. Là, elle pourrait en parler pendant des heures, donc un
mais
extrait.
Mais c'est pas que politique, c'est pas que social, ça va au-delà de ça. Donc, Rose demeurait seule avec son constat, cette vérité du temps révolu qui lui renvoyait le miroir. L'idée l'amusa et elle se sourit. Après tout, elle était fière du regard sans détour qu'elle s'adressait. Elle était fière d'être capable de se dévisager, ne pas se raconter d'histoire, ne pas faire comme tant d'autres bonnes femmes autour d'elle qui passaient leur temps à faire semblant, à nier l'évidence, à s'inventer des consolations. Au moins, elle pouvait se réjouir d'une chose. Les épreuves, en se succédant, lui avaient offert le cadeau définitif de sa solidité. Rose était forte désormais, il suffisait de voir avec les mecs comme elle se défendait.
Oh, mais elle a carrément les sanglots dans la voix et tout.
Bon, ah, attendez, c'est bon. Voilà, il est bon. Mais, et voilà, oui, c'est politique, mais j'insiste, ça va au-delà de tout ça. C'est-à-dire qu'on le lira dans 50 ans, on se dira, mon Dieu, comme il était fort, et dans 100 ans aussi.
C'est surtout dans 50 ans, on se dira, voilà
comment. Carrément, dans 100 ans, Nicolas Mathieu.
Ah oui, on l'étudiera.
On n'aura
plus le droit. Mais
voilà, en 2019, comment était la France et comment était une partie des Françaises.
Ouais.
Parce que moi, je trouve que c'est un portrait d'époque extraordinaire.
Bon, et puis, il faut le dire, allez, tout ce qu'il écrit est intéressant et chouette. Si vous allez sur les réseaux sociaux, que vous suivez Nicolas Mathieu, que ce soit sur Instagram ou sur Facebook, c'est post, toujours intéressant. Ouais, le seul truc, c'est que moi, j'ai peur qu'il prenne le melon.
Ah, et ça va faire...
Voilà, parce que vraiment, c'est voilà, il est très actif, il écrit beaucoup, il réagit beaucoup sur les réseaux sociaux. Un peu de retenue, parfois. Non, mais c'est vrai, j'ai peur parce qu'il est tellement bon. Vous vous en fichez ?
Oui, moi je m'en fiche qu'il prenne le melon quand je vois Houellebecq, hein, qu'il a définitivement le melon. Je me dis que c'est bien un peu de concurrence.
Ah oui, concurrence de melon donc. Autre conseil ?
Oui, moi je voulais juste parler brièvement du livre de Marion Brunet.
Oui.
Que j'ai découvert cet été à travers l'été circulaire. Qui avait reçu le prix, un super prix français, je ne me rappelle plus lequel, du roman français de littérature policière. Et là, elle est retombée dans son créneau de prédilection, c'est-à-dire le roman jeunesse. Et on m'a dit, attention, ça c'est un roman young adult. C'est-à-dire que ce n'est pas un roman jeunesse, c'est un roman entre les deux. Et ça s'appelle « 100 fois ni loi », c'est chez Pocket Jeunesse. C'est l'histoire de Ab Stenson qui est une hors-la-loi.
C'est un western.
C'est un western, tout à fait. Qui va braquer une banque pour en fait aider une prostituée d'un saloon à prendre soin de sa fille. C'est extraordinairement dépeint. C'est le western. Alors on se souvient de Céline Minard qui nous avait régalé avec un roman sur l'Amérique.
Faillir être flingué.
Voilà, sur l'Amérique. Là, on est encore là-dedans. On se souvient aussi
nous
de...
On nous a plus régalé depuis longtemps. Hein.
Non.
Et moi, déjà, j'avais des réserves sur faillir être flingué. Donc,
ah oui, non, oui.
Bon, enfin, lisez Marion Brunet. Si vous avez des enfants qui aiment lire, ça existe aussi.
Ouais.
Même si vous, adultes, vous aimez les ambiances un peu western, les ambiances avec des femmes qui en ont, vous allez vous régaler.
Vous deviez me le prêter, vous l'avez à porte avec vous, bien sûr.
Je ne l'ai pas avec moi, désolé.
C'est promesse, alors. Vous avez eu plein de choses, j'imagine.
Plein de choses, mais comme vous ne m'aviez pas dit de...
Il vous vient rien, là, comme ça.
Ouais. Peut-être le dernier Chalandon, qui est drôle, qui est bien.
Alors, figurez-vous que moi, je voulais en parler du dernier Chalandon, ils n'ont pas voulu. Parce qu'à chaque fois, on parle du Chalandon, on ne l'a pas fait.
Oh, mais ça vaut la peine, hein,
ça
de parler
vaut la peine,
Chalandon,
toujours.
Oui.
Vous affirmez, Marie, dans cette émission. Mais oui, la vôtre, après tout. Hein.
Bon, mais il est réussi le
il est réussi,
le nouveau Chalandon.
Et il est surtout intéressant parce que, comme d'habitude, il casse un peu les codes. Hein.
Bon, ça parle de
moi,
quoi,
j'aime bien
fait
les femmes. Ça parle des femmes qui se prennent en main, puisque c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui, si j'ai bien compris.
Pourquoi vous regardez Paul
non, mais parce que vous présentez
il
des livres.
Il y a une thématique
qui...
aujourd'hui, oui. Il n'y a que Paul qui l'a compris.
Oui. Ouais. Oui. Ah. Enfin, non, quand même. Je ne suis pas la seule, la preuve. Oui, ça parle donc de femmes qui ont chacune des galères dans leur vie et qui se prennent en charge, et collectivement, et qui font une bande. Et c'est vraiment très réussi, parce que c'est à la fois drôle et vraisemblable. En tout cas, on rêve que ça arrive plus souvent dans mon quartier Saint-Joseph, qu'elles se prennent en charge. Et en moi, bande.
Hein, et j'aime le titre, Une joie féroce.
Une joie féroce.
Voilà, sort Chalandon. Il est publié chez qui, Chalandon? Toujours, vous le savez pas?
Non, j'ai oublié.
Qui va c'est être Grasset. Le plus rapide?
C'est Grasset, non?
C'est Grasset, vous dites? Ouais, sûrement, si vous le dites.
Bon, oh, Bénédicte, prends pas de risque.
Sans opinion.
Qu'est-ce qu'elle dit?
Je ouais. Fais la moue.
Moi, je sais pas, je vois pas, j'ai pas mes lunettes de près, donc c'est fichu, je pourrais pas vous le dire. Vous n'avez qu'à... chez Grasset. Bravo, voilà. Christophe Laurent.
Alors...
Je vous dis à la semaine prochaine, chers amis. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On fait un petit récap de ce qu'on conseille. Non, parce que vous avez oublié.
On conseille Rose Royale, ouais, de Nicolas Mathieu.
100 fois ni loi de Marion Brunet.
Et Trecita, les trois cités de Jérôme Camille et Valérie Rouillet.
Et le Chalandon.
Et le Chalandon, une joie féroce. À la semaine prochaine. Merci beaucoup.
That makes you feel alright. I'll get you anything, my friend, if it makes you feel alright. 'Cause I don't care too much for money, but money can buy me love. I'll give you all I've got to give if you say you love me too. I may not have a lot to give, but what I got, I'll give to you. I don't care too much for money, but money can buy me love. Satisfied. Tell me that you want the kind of things the money just can't buy. I don't care too much for money. Money can buy me love. Just can't buy. I don't care too much for money.